Donc si on revient un moment sur la période 10 Miles Underwater,
ouais.
Qu'est-ce que tu retiens en général de cette période? Si je prends la totalité de l'écriture, l'enregistrement, les promos, les concerts, etc. Est-ce qu'il y a un souvenir qui émerge en particulier ou en sortant de cette période-là, avant d'attaquer le nouvel album, qu'est-ce qui... Voilà, comment c'est organisé le chapitre?
Qu'est-ce qui en ressort? Bilan très positif pour un premier album. Nous étant les premiers... je parle très près.
Non.
Nous étant les premiers étonnés en fait de ce, enfin, je vais te dire à notre échelle un succès, donc je mets des gros guillemets, hein, mais pour nous le pari est réussi, oui, dans le sens
Madonna,
où
Madonna, mais bientôt quoi.
Ouais, bientôt. Non mais voilà, enfin alors si on parle pas de succès, on parle au moins d'objectif. Pour nous c'est largement rempli avec ce premier album là, donc beaucoup de retours positifs et tout, et qui a du coup cristallisé pas mal d'attentes pour nous sur le deuxième, pas en termes de réception publique, mais en termes de qu'est-ce que nous on va faire pour le deuxième, parce que là il y a des gens qui nous suivent, faut pas les décevoir, et puis nous on est très exigeants aussi avec nous-mêmes, et on se dit on a envie d'aller plus loin, quand on a envie de faire plus,
mais avec une crainte de se dire est-ce qu'on va pouvoir faire plus.
Non, je vais pas te dire ça sans prétention aucune, mais aucune crainte de pouvoir faire mieux.
D'accord.
Dans le sens où, c'est-à-dire que cet album-là, la promo de cet album-là n'était pas terminée, que l'autre était écrit à 80%.
Ah oui.
Et on savait que ça serait. Nous, on trouve ça mieux. Après, est-ce que c'est une histoire de goût? Sans doute, en premier lieu. Mais nous, on trouve ça. Alors, si c'est pas mieux, c'est au moins plus personnel.
D'accord.
Ce deuxième album.
Bon, on y arrivera.
Plus. Ouais. Alors, pas mal étendu du coup.
Et donc, si on revient un peu sur cette période, on lisait un peu les différentes informations qu'on arrive à trouver sur le site, sur le groupe, sur le site internet par exemple.
Ouais.
Donc vous avez tourné 2013-2014 autant que possible.
Ouais.
On parle d'environ 80 concerts, dont des dates au Japon.
Mm-hmm.
Alors que bon après le Japon, ça paraît toujours peut-être le Graal pour un groupe métal. Vu de l'extérieur, comment ça s'est passé, comment ça s'est même fait, nous en dire de cette aventure japonaise.
En fait, l'histoire elle est partie, je pense, au tout départ de Corroder. Donc il y a une sous-licence au Japon chez Howling Bull via Metal Blade Japon. Et
des groupes japonais, Giz, etc.
Voilà, bien sûr, ouais. Ils ont un gros catalogue, quoi. Et donc je pense que c'est parti de ça. Et alors c'est Alex qui a géré un petit peu plus cette histoire de tournée au Japon. Et donc pour te dire la genèse précise.
Mais quand ça tombe, c'est une vanne. On se dit
En fait, Alex parlait avec un Français qui vit là-bas et qui était promoteur en fait de tournée. Je sais pas comment Alex l'a trouvé. Si c'est lui qui l'a trouvé. Non, je crois que c'est le gars qui nous a envoyé un mail.
Ouais, c'est l'inverse.
Ouais, c'est le gars qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il était Français, qu'il vivait au Japon et qu'il avait écouté notre album parce qu'il était dispo chez lui. Enfin, au Japon. Et il nous a dit que c'était super bien et tout, voilà. Après Alex parlait avec lui assez naturellement et puis il a vu qu'il organisait des tournées quoi, carrément, qu'il faisait venir je sais pas, du Flash God Apocalypse, du
d'accord.
The Faceless.
Il a l'habitude de gérer les groupes européens qui font le trajet.
Voilà, il avait européen, même américain. Voilà. Donc, c'était vraiment c'était presque le mec qui incarnait un petit peu le passage inévitable vers le Japon, quoi. C'était un petit peu lui, quoi, si tu veux. Et donc du coup, étant français, c'est une communication facile, quoi. Et donc lui, sûrement, a peut-être affinité aussi avec les groupes français qui sont dans le style de ce qu'il affectionne. Et donc voilà, le contact s'est fait comme ça. Et je pense qu'à un moment, il nous a proposé cette tournée au Japon. Il nous a dit voilà, j'ai peut-être un slot disponible pour vous, ça vous intéresse.
C'est une première partie d'un groupe.
Ouais, alors on a tourné en fait avec Beyond Creation, qui est un groupe canadien.
D'accord.
On a tourné avec Vomitory sur la tournée, qui faisait leur.
D'accord.
Ouais, c'est
la tournée d'adieu.
C'est la tournée d'adieu,
ouais. C'est la fin, ouais.
Donc tu connais.
Ouais.
Donc qui est un groupe de Norvège, non, c'est ça?
Ouais, du Nord.
Voilà, ouais. C'est des gros Vikings. Hein.
Ah oui, c'est ça. Oui.
On
c'est pas tout à fait le même genre que vous. Il y a des côtés extrêmes communs, mais sinon c'est très.
Ah, quand tu t'assois dans le bus à côté d'eux, tu te sens français, quoi. Tu vois.
Voilà.
tu te sens casse, quoi.
D'accord.
Et quoi, les mecs, c'est des gros Vikings très très gentils, hein. Super ambiance, voilà. Mais oui, alors ça s'est fait un petit peu comme ça et en partie aussi via cette distribution par Coroner là-bas, où je pense que le patron de Metal Blade Japon, qu'on a rencontré à Tokyo, qui est venu au concert nous voir, nous, parce qu'il n'y avait aucun autre groupe du label aucun autre groupe de son catalogue qui jouait sur la tournée, et voilà, qu'on a pu rencontrer en personne, un mec super sympathique qui a vraiment vraiment aimé le concert.
Et
voilà, je pense qu'il a appuyé un petit peu la tournée aussi de son côté, parce qu'il se connaissait en fait. Combien de dates? 6 dates.
6 dates, ah ouais, je sais pas.
Donc ouais, sur un pays comme le Japon qui est au final
facile. Sur quoi, une semaine ou plus, un peu plus?
Non, sur 6 dates, sur 6 jours.
6 jours, ah oui, donc c'était.
Nous, on est resté 9 jours sur place, 8 jours, pardon. On s'était pris un jour avant, un jour après, histoire de. Alors, arriver, souffler le décalage horaire, tout ça, voilà.
Et alors, c'est autant bienvenue sur Mars qu'on l'imagine ou...
Franchement, pas loin.
Ouais.
Ouais, franchement, c'est une autre culture, c'est un autre monde, c'est.
Et même au niveau, je sais pas,
un autre public, à part.
Les mecs de la salle, les ingénieurs sont, le public, c'est très différent. Enfin.
Alors les mecs de la salle, on savait pas trop qui était qui.
D'accord.
Donc tu sais, t'arrives là, déjà, on était 5 groupes sur la tournée, donc un peu pour tout. Déjà le temps de 6 jours, c'est quand même assez peu pour connaître les autres groupes. Donc déjà, tu essaies de repérer vite pour tisser un peu de lien et puis commencer à vraiment apprécier
cette tournée. À part les grands Norvégiens que tu repères.
Ouais, ceux-là, tu les vois de loin. Ouais. Mais les Canadiens, on est très vite devenus potes avec eux parce que voilà, il y a la barrière de la langue déjà qui est pas là. Si tant est que c'est une barrière, parce que ça dépend de chacun des gens, quoi.
Il y a eu des aventures un peu, il y avait eu des anecdotes.
Ah ouais, alors quand je te dis que c'est un monde à part et une culture à part, c'est que alors déjà les gens dans la rue, ils marchent, ils ont tous leur voilà, ils vont dans une direction bien définie, mais si tu les arrêtes et tu leur demandes ton trajet, ils sont tellement sympas et ils veulent tellement pas te laisser dans la galère que carrément ils t'amènent sur place en fait.
Même si c'était de l'autre côté par rapport à où
ils allaient. Ça nous est arrivé 3 fois je crois, où on disait, déjà la première fois on arrivait, on cherchait l'hôtel pour passer la première nuit. Donc voilà, très difficile de se repérer parce que la signalisation, tout ça, voilà, et puis c'est très dense, beaucoup de circulation, tout ça. Arrivé à Tokyo, et là on cherche notre chemin et puis on arrête une personne dans la rue, très mauvais niveau d'anglais, je vais pas mâcher mes mots, ils sont très très mauvais, pas nous, hein.
Non, bien sûr.
On n'est pas des brutasses, mais on se débrouille quand même.
C'est connu qu'ils ont
un très très mauvais niveau d'anglais, donc ils te répondent en japonais, mais t'as envie de dire, je comprends pas mec, je comprends pas du tout cette langue. Donc au final, à un moment, il dit, ok, stop, on se comprend pas, ça commence à... à sortir des situations un peu trop comiques. Du coup, il nous dit, bah venez, et puis il nous amène, et le gars, c'était pas au coin de la rue, on avait un quart d'heure de marche avec lui, quoi.
D'accord.
Et jusqu'à devant l'hôtel, voilà, c'est là, ok. Super, et le mec s'en va dans l'autre sens après, quoi. Donc super gentil, quoi. Vraiment super gentil, vraiment une espèce d'entraide, quoi.
Et donc, monter le truc comme INS, c'est quand même vu de vous, c'est quand même une espèce de consécration, pas une consécration, mais peut-être dans votre liste à faire du groupe, il y avait tourner Japon.
Ah, mais alors, je vais pas te mentir, effectivement, il y avait ça. Attends, j'ai 2-3 anecdotes.
Vas-y.
Parce que là, c'est un peu une anecdote de touriste, si tu veux, okay. De se faire guider à un hôtel.
Ouais.
Mais anecdotes de concert et qui sont propres au concert, et particulièrement, je pense, de métal, c'est que on a eu 2 fois, sur 2 dates différentes de la tournée, espacé quand même de plusieurs centaines de kilomètres, on a vu un mec ou deux débarquer en costard cravate avec la mallette. Il sortait du boulot, le gars, et voilà, il arrive dans le pit, et le mec pit avec sa mallette et son costard, et c'est surréaliste, toi. T'es là, tu te dis, tiens, ça arrive pas dans un autre pays, ça, c'est dingue, tu vois. Et en fait, t'as l'impression que c'est, voilà, leur vie, elle est tellement cadrée, elle est tellement sérieuse, droite, et voilà, ils marchent tellement dans des clous, qu'il y a un moment, c'est des êtres humains, ils ont envie de péter des câbles, quoi.
Il habite aussi peut-être à 2 heures de train, donc le temps, s'il rentrait chez lui pour changer, pour revenir, j'ai dit direct, quoi.
Bah ouais, sans doute, mais du coup le gars, voilà, il venez comme vous êtes, quoi. Du coup c'est assez drôle, quoi, c'est assez déstabilisant. Ils adorent faire des photos, ils adorent les autographes. Alors, pas dans le cliché, ils adorent faire des photos, voilà, mais ouais. ils aiment bien la collecte, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la collection, ça s'est bien senti. Ils avaient, tu sais, des grands magazines avec la photo des groupes. Donc tu vois, le mec il ouvre, on est à l'autre bout du monde, le mec il a notre photo et puis il nous demande des dédicaces.
Est-ce que vous aviez eu un article dans Burn ou quelque chose, ou...
Non,
parce que le magazine il est sans doute.
C'était pas un magazine, c'était un livre avec des feuilles blanches, si tu veux, quoi.
Ah oui, d'accord.
Un cahier de feuilles blanches où le mec c'est son cahier de dédicaces, quoi.
Je comprends.
Tu vois ce que je veux dire?
Ah bah...
Et donc voilà, ils sont très dans la collection et on a eu ça dans toutes les villes et plusieurs personnes dans chaque ville, quoi.
D'accord.
C'est assez étonnant, c'est assez déstabilisant sur un premier.
contact.
Ouais, comme ça, c'est rigolo. Hein. C'est toujours, ils sont très gentils. Hein, voilà, il n'y a pas eu de mauvaise surprise.
D'accord. Donc c'était 6 jours un peu particuliers,
ouais,
dans la vie du groupe.
Ouais, ouais. Et puis même les villes, la bouffe et tout, cool quoi. Très dépaysant, super sympa. Moi, j'ai aventurier culinairement parlant. J'ai goûté un peu de tout et n'importe quoi. C'était très cool.
Ah bah, super, génial. Ah bah, il y a de quoi faire au niveau gastronomique.
Ouais, c'est clair. Et alors attends,
ouais,
je te coupe. Pour revenir sur
vas-y,
ce que tu disais, je sais plus ce que tu disais justement.
Donc justement, est-ce que c'était dans le groupe, est-ce que dans sa liste à faire absolument
ah oui,
avec
voilà,
le groupe,
ça.
Il y avait Japon.
Ouais, et si tu veux, ça a été c'est plus ou moins un rêve de gamin, parce que très influencé par la culture pop dont les jeux vidéo font partie, si tu veux. Notamment pour la thématique, hein, surtout. Le Japon, je t'avoue que c'est une destination qui nous a complètement fait rêver depuis longtemps. On s'est dit, ah, ça serait marrant de tourner au Japon. Et puis en fin de compte, c'est arrivé comme ça, quoi.
Bah, vite, ouais,
super
album,
vite, et... super vite. Et là, on était super étonnés. Et je t'avoue, quand on s'est assis dans l'avion avec Alex, on s'est regardé en mode.
On y va, quoi.
Putain, mais souviens-toi quand on avait 17 piges là, qu'on commençait, qu'on se disait, ah, le jour où on ira tourner au Japon, si un jour on fait des dates là-bas. C'était là, c'est genre, mec, on est là, ça y est, on est assis.
Il y a des groupes qui ont 50 carrières qu'on n'avait pu tourner encore. Donc,
ouais. Bah ouais, donc c'est vraiment une opportunité, une chance qu'on a pu saisir au vol, quoi.
Et bah, génial. Toujours dans le terme d'évolution depuis 10 Miles Underwater, donc si on prend un peu l'historique du groupe, d'abord l'EP sur Realize Records, mm-hmm. Ensuite, donc le premier sur Coroner, maintenant Apatia, je sais pas comment on dit. Progression naturelle ou
hasard des rencontres, j'ai envie de dire.
Ouais. Avec Coroner, vous ne pouviez pas continuer ou il n'y avait pas eu, non?
C'est-à-dire que tu connais le marché du disque, hein, ouais. L'industrie, tout se casse la gueule, voilà. Coroner, ils nous ont dit oui, mais.
Ah.
Oui, mais. Donc, avec des.
Des gros mais.
Ouais. Alors, aucune tension entre nous, si tu veux, mais avec des conditions qui étaient moins intéressantes que sur le premier album.
Voilà ce qu'on peut faire.
Voilà. Ils nous disent, nous, on en est dans cette situation-là où le label, il est dans cet état-là, financièrement, et voilà, la santé du label, on peut vous proposer que ça. Donc, nous, on a dit, écoute, reviens vers toi si jamais. On réfléchit, on te dit quoi. Bon, au final, on a eu une proposition d'Apatia qui était plus intéressante. On a vu aussi d'autres facettes en fait de tout ce milieu là c'est que tu vois on a pu en parler avec pas mal de groupes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous de cette histoire de label et qui nous ont dit en fin de compte les labels c'est faussement séduisant puisque si tu veux c'est ils te vendent une image mais dans les conditions tu te fais
entubé dans les rangs.
Oui, là voilà, je voulais pas le dire mais c'est ça ouais. Tu te fais bien entubé quoi. Donc on s'est dit bon bah Apatia finalement ça représente un label, tu vois, indé à dimension humaine, et on s'est dit, voilà, en plus le gars est français, on va se retrouver dans une collaboration qui va être plus étroite qu'avec Coroner, bien que c'était pas négatif hein, avec Coroner, mais il y a la distance, tu vois, voilà, il y a des choses qui font que c'était plus évident avec Apatia, et c'est on s'en rend compte encore aujourd'hui, tu vois, là, c'est vraiment facile, il est venu tout à l'heure, voilà, on a pu
voilà,
échanger, c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc voilà, comme il y a quand même pas mal de choses à faire sur son propre territoire déjà, je pense qu'on a fait le bon choix et c'est pas seulement le label qui conditionne les tournées, voilà. On s'est dit avec Coroner on est parti au Japon, pourquoi on n'irait pas à l'autre bout du monde avec Apatia, quoi.
Absolument, voilà. À chaque période on prend ce qu'on peut de chaque période après.
Ouais, c'est ça.
Ok. Donc si on revient un peu sur le concept, donc voilà, on voit que le fil de 10 Miles Underwater a été suivi. 10 Miles Underwater, c'est voilà le boulot autour de Bibi.
ouais. Là, de Bibi.
Voilà. Je sais pas comment ça se prononce.
Ouais, j'ai vu.
Charles Williams, voilà.
Bib. Bon. Voilà.
Bib. Là, on vous intéressait plus à son compère au Tim Burton.
Ouais, exactement.
Donc t'avais l'air de le dire, mais donc un, est-ce que vous l'aviez dès le début prévu comme un diptyque? Vous saviez que vous aviez deux albums liés Et est-ce que vous aviez le sentiment que surtout l'histoire ouverte sur Tales Underwater était inachevée et qu'il fallait un deuxième chapitre?
Alors, pour répondre à la première partie de la question, déjà, quand on a écrit Tales, le concept, la musique, tout ça, on n'avait pas idée du tout du deuxième. D'accord. On était concentré sur ça, on est parti à fond là-dedans. Voilà, on savait pas ce qui allait en découler en termes de réponse publique, presse, voilà. On était content de notre travail, mais ça a été tellement bien reçu qu'on s'est dit, on va pas recuire l'histoire et faire là. On s'est dit, en fin de compte, et ça m'amène vers ton deuxième point, c'est vrai que cette fin là, elle reste vachement ouverte en fait sur une potentielle suite, quoi. Et donc à partir de là, on a envisagé une suite. Mais cette fois avec Otis Barton, qui est donc le comparse de William Lee, co-inventeur de la bathysphère. Et donc voilà, l'histoire s'est brodée un petit peu au fur et à mesure de la tournée de Ted Miles. On en parlait, tu vois, le van, c'est le moment propice pour parler de tout ça. Antoine avait plein d'idées sur comment en faire une suite qui serait pas une simple suite bête et méchante, mais qui serait liée par quelques éléments. Finalement les deux récits ne sont liés que par quelques éléments, par ces deux protagonistes là, ouais. Par la bathysphère, mais en fin de compte rien de plus, quoi.
Mais c'est ça, oui.
Donc c'est une histoire qui en découle, mais qui donne vraiment, vraiment complètement autre chose, quoi, autant dans le fond que dans la forme.
Mais donc, ce que tu disais précédemment, d'avoir en ayant fini Tales Miles Underwater, avoir 80% de suivant, c'était pas une volonté, simplement vous aviez été très créatif et donc vous aviez beaucoup de matière.
Ouais. Alex adore composer, c'est vraiment c'est son plus gros kiff, je pense. D'accord. Au-delà de tout, hein, au-dessus de tout. Et voilà, le mec, les machines arrivent, il adore écrire, donc. Une fois que les morceaux de l'album ils sont bien rodés, que tout le monde les joue correctement, que le live c'est cool et tout, bah qu'est-ce qui reste à faire à part créer, tu vois, on en est là. Alex a enchaîné sur les riffs et puis voilà, après le reste du groupe brode son, ramène sa patte, la thématique vient se caler autour de ça et même réinfluence la musique et des modifications par rapport à la thématique et l'enchaînement des morceaux sur l'album, enfin tout ce qui constitue un concept album, je pense.
Qu'est-ce qu'en général tu peux nous dire sur l'enregistrement de Barton's Odyssey, et surtout est-ce qu'il y a eu vous avez modifié votre façon de travailler ou évolué dans votre façon de travailler entre les deux disques par l'expérience accumulée entre les deux, ou d'autres environnements, d'autres moyens, voilà.
Alors les deux disques ont été enregistrés dans les mêmes conditions quasiment. Batterie, le premier album on avait fait ça au Dredeno Studio, pas très loin de Rennes. Ce deuxième album on l'a fait ça en région parisienne, au The Office des Artistes, le studio de Jean-François D'Irienzo, qui est un ami à nous. Voilà, les guitares basses ont été faites dans les mêmes conditions que le premier album, c'est-à-dire en DI, en home studio, à part à ceci près qu'on a changé d'instrument et changé un petit peu de matériel home studio, donc de meilleure qualité, je pense, ce qui donne naissance à cet album qui sonne beaucoup plus dense, quoi, que le premier en termes de production. Lié à ça, c'est ce nouveau matériel et puis peut-être, je sais pas, une façon de jouer qui est plus mature, peut-être plus d'expérience aussi, ouais, dans le jeu, sans doute.
D'accord.
Et les voix, pardon, excuse-moi, oui. Les voix ont été faites aux cuisines de Shell. Cuisine, c'est là une salle de concert, ils ont un studio d'enregistrement. Voilà, comme le premier album, ça a été fait au même endroit. Lieux, c'est vrai que ça n'a pas trop changé, hormis la batterie.
Alors peut-être question idiote vu du nom musicien, mais c'est logique pour vous de séparer les types d'instruments, batterie d'un côté pour avoir un rendu particulier, ou
tu veux dire séparer dans les studios,
ouais.
Pour des questions de temps, d'argent et de possibilités, dans le sens où une batterie, il faut un local, des micros, tout plein de matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses à enregistrer. Donc là, tu es obligé d'aller dans un studio. Guitare basse, pour des raisons de budget, de temps et de et de possibilités en fin de compte, parce que quand tu vas, tu regardes il y a 20 ans comment on faisait un album, c'est que tu allais en studio un mois, deux mois, tu ressortais avec ton album mixé quoi. Là aujourd'hui, bah, t'es obligé de continuer ta vie, toujours d'aller travailler et tout, donc voilà, bah, comme on peut pas enregistrer tout d'un trait, bah, on enregistre, voilà, on répartissait des journées, ça et là, voilà, vendredi, samedi, dimanche, on enregistrait, et puis la semaine suivante, voilà, donc ça c'est un petit peu réparti comme ça, mais l'enregistrement guitare et basse, ça demande quand même beaucoup moins de contraintes que la batterie. Donc home studio, tout à fait faisable, et puis dans des conditions qui sont un peu plus confortables que se retrouver en studio, faire des bornes et des bornes. Et la voix, pareil, il faut un local.
Si on prend le tout, ça prend combien de temps? C'est sur combien de période de combien de temps? Mois, 6 mois, 3 mois?
Alors, la batterie, ça a pris 4 jours avec install, tout ça. Les guitares, ça s'est étalé sur 2 mois, mais tu vois, ça s'est fait.
Donc c'est toi qui t'es déplacé à Rennes, enfin vers Rennes, c'est que c'est.
Pour le premier album, on parle là.
Premier album,
nous on s'est déplacé à Rennes. Je suis allé avec Alex, ouais. On avait fait les batteries comme ça. Et voilà, tu repars avec tes pistes, hein, donc voilà, normal, rien d'exceptionnel. Et donc, guitare basse chez moi à ce moment-là. Et le chant, donc aux cuisines, qui est la salle de concert. Voilà. Et pour le deuxième album, bah, vu que ça a assez bien marché comme ça, même recette, juste avec matériel différent, mais voilà, avec moins de contraintes que d'aller dans un studio, et donc étalé sur, en tout et pour tout, en comptant les blancs les blancs qui sont beaucoup plus longs que les périodes d'enregistrement. Ça a commencé en novembre, ça s'est terminé au mois de juin. Parce qu'il y a eu 4 mois de battement entre l'enregistrement des guitares et de la voix, si tu veux, donc déjà.
Et tant qu'avoir un process de 8 mois, il n'y a pas le risque de vouloir modifier des trucs dans le parcours?
Il y a ce risque là.
Les batteries, j'aurais dû faire un truc comme ça, le morceau il est.
Ouais, mais il y a ce risque là, mais à un moment il faut figer les choses dans le temps, il faut assumer les choix à faire un moment T. Et c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui, pas de regret quoi. On est content de ce que ça donne maintenant, et on a pu changer des choses à l'enregistrement qu'après en fin de compte.
D'accord. Comme ça, tu l'as un peu parlé sur comment est la chanson. C'est la machine arrive qui arrive et puis vous bossez dessus. Mais c'est très collaboratif, c'est-à-dire voilà, vous arrivez avec une idée, un riff, etc. Et puis les autres construisent autour. Ou quelqu'un ou guitariste arrive avec un titre très construit et puis vous voyez comment ça se.
Ça se passe plutôt comme ça en fait. Ouais. Alex arrive avec chez lui avoir des idées, un riff ou deux, hop. Un morceau naît, il construit une potentielle structure du morceau, et puis il me l'envoie. Donc c'est une musique qui est très écrite, hein, qui n'est pas du tout faite en répète, en buff, en choses comme ça.
D'accord.
Et moi je viens à coller par-dessus la batterie qui va donner un peu le ton et la couleur, un petit peu la saveur du morceau si tu veux. Et par-dessus ça, il y a des modifications qui sont apportées par les autres membres du groupe, et chacun apporte un petit peu ses petites finesses quoi.
Et sur un même titre, toi par exemple au niveau batterie, tu proposes différentes alternatives, alternative 1, alternative 2, 5, 3 ou...
Non,
tu proposes une version et après on en discute, mais...
Exactement, c'est ça, je propose une version, je mets ce que moi je vois juste en fait. Alors avec quelques indications d'Alex, des fois il me dit sur riff là, tu vois, c'est clair, il faut ça quoi, parce que alors on l'écoute ensemble et on se dit ah ouais, effectivement là ça va être plutôt un blast, là ça va être plutôt une partie. Après, les teintes générales sont décidées un petit peu ensemble. Mais oui, après moi j'écris mes idées et puis s'il y a du changement, on revient dessus, il n'y a pas de problème. Ça c'est sûr que à ce niveau-là c'est très collaboratif et on met tous un petit peu notre ego de côté à ce moment-là en se disant bon ben pas forcer le truc, si trois préfèrent comme ça, on va faire plutôt comme ça.
Ok, d'accord. Donc en termes de clips, pour ce disque-là, il y a deux clips paroles, lyrics qui sont sortis, ouais. Cuisine de Massive Stream et Back to Anatopia. Par contre pour le précédent, pour celui-ci, vous aviez fait pour Thousand Caribbean, un clip avec on voyait le groupe en mouvement, etc.
Ouais.
Il y a quelque chose dans les tuyaux en plus que ces clips lyrics ou pas?
Eh ben, il y a tellement quelque chose dans les tuyaux qui va sortir début avril, le clip filmé.
De quel titre?
Upwelling Part 1.
D'accord. Donc c'est fait, c'est en boucle.
Ah oui, il est presque fini de monter.
D'accord.
On a eu un premier jet, c'est très cool.
Okay.
On va avoir un deuxième jet, le dernier jet, je suppose.
Et alors, donc de ces deux expériences de clips, donc pour Southern Caribbean ou celui-ci, c'est un clip, c'est sympa, amusant ou c'est une galère nécessaire? Parce que je refais 250 000 fois les mêmes machins.
Ouais. Franchement, j'ai envie de dire c'est plus amusant qu'une galère.
Ouais.
Le premier était marrant parce qu'on était dans un cadre naturel avec voilà, ces bateaux comme tu as pu voir là,
ouais.
Qui était plutôt cool, un super site. Puis c'est intéressant de bosser avec un réal qui va te dire et qui voilà, qui a construit lui son script en fait, et qui va te dire bah cette prise là vaut mieux la faire comme ça, et là tu vois comme je le montrais dans ce sens là, ça sera plus efficace quoi. Et là pour ce deuxième, on a fait quelque chose, on voulait quelque chose de très très différent parce qu'on n'aime pas trop aller dans la répétition. Et puis c'est bien d'aller dans la surprise un petit peu. Et puis voilà, ça s'aventurait dans quelque chose de nouveau.
Mm-hmm.
Et donc pour celui-ci, on n'est pas du tout en décor extérieur naturel. On a fait quelque chose qui relève des arts numériques.
D'accord.
Dans le sens où on joue sur une structure pyramidale. Ça reste un performing filmé, mais avec deux murs de LED de 6 mètres de haut derrière nous. Ouais, on a rencontré une équipe technique avec le temps, parce que Simon travaille dans l'événementiel, et voilà, il connaît les bonnes personnes. Donc on a rencontré une équipe technique qui eux avaient un besoin pour leur société de travailler sur des choses nouvelles, voilà, d'aller dans l'innovation un petit peu. Donc nous on a un petit peu utilisé ce besoin, la nécessité, pour pouvoir répondre à notre attente à nous de faire aussi quelque chose de différent quoi. Et donc ce clip, on va avoir deux murs comme ça de LED de 6 mètres de haut sur 6 aussi je crois, et un sol entier comme ça tout en LED où en fait il y a un film qui a été un film en synthèse quoi, qui a été designé et qui est projeté derrière nous, et qui dépeint en fait les grandes images du scénario de Barton's Odyssey.
D'accord.
Et qui voilà, qui compte un petit peu, qui narre un petit peu le.
C'est l'illustration du titre que vous êtes en train de. D'accord.
Alors pas que du titre, mais
tout le disque.
Voilà, de tous des grands chapitres du disque via ce film. Mais du coup, il y a une technologie qui est c'est comme du mapping en fin de compte, mais qui la perspective change en fonction de la caméra.
D'accord.
Parce que suivant où se positionne la caméra, en fait, il y a possibilité de tordre les perspectives pour que la caméra soit toujours face à la perspective qui va rendre l'ensemble le plus réel possible.
D'accord.
Alors évidemment c'est de l'art numérique, donc on voit qu'il n'y a pas d'image de synthèse cachée. Ouais. On n'a pas voulu faire quelque chose de fou dans ce sens-là, mais quelque chose de novateur, et assumer oui ce côté projection sans post-production en fait.
Et donc vous l'avez joué combien de fois le titre?
Je sais pas, 25, 30, je sais pas. De 8h du mat, de 8h du soir à 5h du mat.
Ah ouais.
Et ouais, tu finis sur les routines.
Ouais, d'accord.
Grosse nuit, avec très peu de possibilités de sortir de la structure, puisqu'on est en fait dans un mur de LED comme ça, en angle, avec un sol en LED, sur une structure pyramidale. Et donc pour ressortir, il faut passer par une dalle qu'ils enlèvent. Donc, c'est un peu toute la nuit sur la.
Donc ça s'enchaîne. D'accord. Bon, donc début avril, vous sentez ça sur YouTube,
sur
Facebook.
Voilà, exactement. De toute façon, on va faire suffisamment de promos dessus pour.
Une dernière petite question avant un petit quiz habituel que je pose à toutes mes interviews. Moi, un aspect qui m'intéresse très particulièrement, c'est la pochette, les visuels. Et là, Dieu sait que vous ne moquez pas du monde, donc avec des pochettes toujours très soignées, signées par Per Lawson.
Ouais.
Qui a fait, je rappelle, pour certains, Immortal, Faceless, Aborted, etc.
Ouais, exactement.
Comment on bosse avec un mec comme ça, si ce n'est lui envoyer un mail, bonjour, on a un groupe, t'es beau, t'es ok, pour nous faire un dessin.
C'est tout
Ouais, c'est aussi simple que ça.
Ouais, c'est tout.
C'est un mec, on pourrait penser qu'il est un peu compliqué d'approche, ou cher, ou les deux, ou genre
je sais pas, mais quand on est arrivé avec notre premier album, notre idée de concept, le groupe n'existait entre guillemets pas, parce qu'on avait, l'album n'étant pas sorti, si tu veux, il y a personne qui nous suivait spécialement, quoi. Donc on est arrivé en étant des parfaits inconnus pour lui,
ouais.
Et juste avec une idée scénaristique et une idée visuel qui je pense lui a plu, et déjà il nous a répondu pour nous dire ouais moi ça me botte.
On a dit on s'appelle Atlantis Chronicles ou Abyss à l'époque, je sais pas quoi.
Non, Atlantis Chronicles, on était déjà.
Et notre voilà, on fait un album autour de ce concept là,
c'est ça.
On a l'idée de ça, Baptisphère, machin.
Voilà, on a un concept album, un personnage, une plongée, voilà, un univers fantasmagorique, des créatures sous-marines qu'on voudrait un petit peu remodeler, tout ça. Et il a dit super, j'adore l'idée, c'est parti. Voilà, tout simplement.
C'est aussi simple que ça ?
Ouais, aussi simple que ça. On est parti là-dessus, et puis le deuxième album, en fait, étant la suite directe du premier par des éléments visuels, c'était évident que vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un d'autre. Donc oui, du coup, il a suivi le courant, quoi. Donc quand on lui a écrit pour le deuxième, il a immédiatement répondu pour dire bien sûr les gars, on va bosser ensemble.
Et donc c'est quoi, il lui propose un premier jet, puis on discute, on échange, il modifie les choses.
Ouais, alors nous on délimite avec des choses qu'on a envie de voir apparaître sur la cover.
Parce qu'il a son univers, c'est toujours il faut que le paysage, évidemment, le relief soit un peu inquiétant. Il y a un peu côté monstrueux dans l'obscurité qui va nous péter la figure. Enfin, il a toujours un.
Alors lui, il a une patte qui est déjà très evil, j'ai envie de te dire.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Alors nous, on voulait pas aller dans ce sens-là, mais utiliser cet univers inquiétant, puisque finalement, les amis, c'est ça. Il faut que ça soit beau mais inquiétant, quoi. Et donc pour ce deuxième, on a délimité aussi le contexte, quoi, en lui expliquant,
il disait, je veux une figure de Poséidon.
Alors c'est le roi Atlas.
Ah, c'est le roi Atlas,
ouais.
Pardon.
Non, mais c'est bien que du coup on peut remettre sur les rails le truc. On lui a dit, suivant la thématique de l'album, et on lui dépeint à chaque fois, on lui explique, hein, on n'est pas. On se connaît entre guillemets maintenant. Donc on lui explique bien les choses et on lui dit, nous, ce qu'on veut voir apparaître, c'est évidemment un rappel de la bathysphère, cette fois-ci craché, avec un nouveau vaisseau qui vient et qui braque un projecteur dessus pour que ça soit plus évident à voir et faire la connexion tout de suite. On a commencé à nous envoyer des schémas, on lui a envoyé nous des exemples de ce qu'on chercherait en tant que nouveau vaisseau sous-marin, quoi. Donc il arrivait à ça, il nous envoie des croquis, on valide, et après, une fois que les grandes formes sont dessinées, lui il rajoute du détail, en fait. Enfin, ça va être que dans le détail.
Et le fait que là c'est très orienté bleu, logique, profondeur, et là beaucoup plus violet, c'était demande de notre part,
ouais, c'était voulu. On voulait pas on a un premier album qui est très bleu.
Mais vous allez faire comme chez le Robodom, un rouge, un bleu, un jaune, un vert, un noir.
Non, ça sera moins évident que ça, je pense. À Children, ils ont vraiment voulu faire ça. Alors, filtre vert.
Voilà,
filtre,
c'est
vert.
Ça, il y a ça. Ouais.
Non, nous on a voulu, cet album est très bleu, il y a très peu de couleurs en fin de compte par rapport
c'est
à.
C'est des bleus ou des nuances de bleu ou jusqu'au noir.
Ouais, voilà, avec un petit peu de rose là, une espèce de nuance.
C'est vivant, quoi.
Voilà, juste ça. Et là, celui-là, on l'a dit, on veut des couleurs qui tendent plus vers le violet, évidemment, mais avec une espèce de flore qui serait jaune, vert, turquoise, qu'il a rendu là avec des reflets et ce genre de choses là, donc plus de couleurs, parce qu'on voulait vraiment que ce protagoniste arrive en fait dans un univers qui est cette fois-ci on s'est détaché aussi de la faune, mais plutôt là on s'est concentré sur la flore,
c'est ça, fait, d'accord.
C'est tous des éléments graphiques qu'on a pu donner.
C'est lui qui a fait votre logo ou pas du tout?
Non, le logo c'est un ami qui l'a fait.
Nickel. Bah super, en tout cas, bon, il est super doué, c'est pas nouveau, il suffit de voir
les
pochettes précédentes et c'est sûr que ça donne envie, en tout cas, rien qu'à la vue de la pochette. Après, la musique, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, la pochette fait effet. Donc, j'ai un petit quiz. C'est juste quelques 6 questions pour des petites idées pour.
Dis-moi, je réponds cash ou.
Ouais, non, il n'y a pas de piège, hein, c'est pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste.
D'accord, ok.
Musique à prendre sur une île déserte. Un album à prendre.
Ah ouais, ça c'est des questions trop dures, ça.
Je sais bien.
Ah, c'est trop dur, ça
c'est pas drôle.
Un album à prendre sur une île déserte.
Ouais. Le truc que tu peux pas t'enlacer, ça fait depuis le début de temps que t'écoutes et.
Je sais pas, un very best of de Queen.
D'accord, ok. Alors là c'est un peu plus rigolo, la chanson de votre répertoire que tu aimes le moins.
De notre répertoire
ouais, de albums et puis de l'EP, s'il y en a une où finalement si elle n'existait pas c'est pas grave, ou enfin pas grave mais que elle est un peu moins dans ton cœur, quoi.
EP compris.
Ouais.
Ah, c'est plus facile avec l'EP, hein.
Ah bah, bien sûr, bah, toute la disco.
Ah bah toute la disco, je veux dire les premiers morceaux qui sont plus dispensables évidemment. Non, un morceau que j'aime moins sur l'EP c'est le quatrième morceau, le dernier morceau, Invasion from the Abyss.
D'accord.
Que j'affectionne moins parce qu'il est vraiment très, vraiment très très trash metal.
Ouais. Et, trop typé.
Ouais, trop typé. Je déteste rien, mais si j'en aime un moins que les autres de tout ce qu'on a fait, ouais, je pense que c'est celui-là.
Ok, ok. Chanson que tu aurais adoré avoir composée.
En tant que batteur ou en tant que.
En tant que musicien.
En tant que musicien, ok, bon. Que j'aurais adoré avoir composé de A à Z.
Un truc a fait un carton pour y avoir du fric, hein, c'est possible.
Que j'aurais adoré avoir composé. Pas en tant que carton.
Non, mais après c'est une blague, ça dépend. Mais
ouais.
Un truc qui t'a donné envie de jouer de la batterie, ou un truc qui techniquement a été chaud, de sorte t'as passé du temps pour le passer, ou je sais pas, qui t'a impressionné à l'écoute.
Ah,
ou...
J'en ai un. Everything went black de Black Dahlia Murder.
D'accord.
Premier morceau de Nocturnal.
Imagine pour le prochain album.
C'est pas le meilleur morceau de tous les temps, mais qui est un morceau que je pense qui a fait une petite charnière dans ma vie.
D'accord.
En mettant play sur cet album-là, j'ai fait
Pour le prochain album, tu as le choix d'un guest, mort ou vivant. Tu prends qui?
C'est n'importe qui.
Ouais. Et il peut même être mort.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury.
Attends. Non mais vivant.
Faudra qu'il se mette un peu à la au choix extrême.
Ah alors si on a le choix demain. Strapping Young Lad, comment il dit?
Oui, le Canadien là, oui. Oui, ok, bah d'accord. Je vois bien, tu penses qu'à lui.
Devin Townsend.
Voilà, Devin Townsend, d'accord. Ouais. Pour le côté barré ou pas?
Ouais, le côté barré, le personnage, je sais pas, les idées qu'il pourrait apporter. Voilà. S'il y a un guest qui me ferait envie, ce serait ça.
Deuxième question, alors là vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous avez la possibilité de jouer un concert ou produire n'importe où dans le monde. Tu vas où? Bon, Japon c'est fait, next.
Alors, je vais te dire un truc, ça va peut-être pas faire rêver tout le monde, ça va être bien. Du temps blanc, je suis tenté de dire le Hellfest, tu vois, main stage à 20h50.
D'accord.
Voilà, et non, ça fait rêver parce que tu joues devant 50 000 personnes. Mais comme c'est trop cliché et c'est trop bien presque, j'ai envie de te dire les Foufounes électriques à Montréal. Parce que je sais pas, c'est une salle où tous les groupes que j'adore ils passent là-bas. Ouais. Ils sont passés là-bas.
Sympa, très belle salle. Et puis, ton album de l'année 2015, l'album que tu recommanderais particulièrement qui soit sorti l'année dernière.
Sorti l'année dernière, le dernier Gorod.
D'accord. Et bonne nickel. Merci.
Je t'en prie.